En rhumatologie, le diagnostic ne commence pas lorsque vous touchez une articulation. Il commence lorsque le patient franchit la porte.
Bonjour, je suis le professeur Claire Delmas. Bienvenue sur Rumcast. Ici, nous n'apprenons pas la rhumatologie en récitant des listes. Nous apprenons à observer, à écouter, à douter, à construire un raisonnement clinique. Aujourd'hui, vous allez assister à votre toute première consultation de rhumatologie. Enfin, pas tout à fait. Vous allez y participer. À plusieurs reprises, je vous demanderai d'interrompre le podcast. Faites-le réellement, réfléchissez avant d'écouter la suite, car les quelques secondes que vous passerez à chercher une réponse auront souvent plus de valeur que plusieurs minutes d'explication. Lucas ?
Oui, professeur ?
Premier jour de stage, comment tu te sens ?
Honnêtement, un peu impressionné, je me suis rendu compte ce matin que je n'avais jamais vraiment vu une consultation de rhumatologie. Je connais quelques maladies, quelques traitements. Mais j'ai l'impression de ne pas savoir par où commencer.
Tu sais, c'est exactement ce que ressentent presque tous les étudiants qui arrivent ici. Et j'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je ne vais pas t'apprendre une maladie. Je vais t'apprendre quelque chose de beaucoup plus utile.
Quoi donc ?
Comment pense un rhumatologue ? Parce qu'un diagnostic, ce n'est jamais une intuition. C'est la conséquence d'un bon raisonnement. Et ce raisonnement commence toujours par une observation. Entrez.
Bonjour docteur.
Bonjour madame. Installez-vous.
Elle a l'air fatiguée.
Ne parle pas trop vite, observe. Qu'est-ce que tu vois ? Pas ce que tu imagines, ce que tu vois.
Elle marche lentement.
Continue.
Elle s'est aidée de l'accoudoir pour s'asseoir. Et j'ai l'impression qu'elle protège un peu ses mains quand elle s'assoit.
Très bien. Tu viens déjà de récolter plusieurs informations. Pourtant, tu ne lui as posé aucune question.
Je n'avais jamais vu les choses comme ça. J'avais toujours l'impression que l'examen clinique commençait quand on examinait le patient.
C'est une idée très répandue, mais elle est fausse. L'examen commence dès que le patient entre dans la pièce, même avant qu'il parle.
Finalement, on observe avant d'interroger.
Exactement. Et parfois, cette première impression va orienter tout le reste de ton raisonnement. Mais attention, elle ne doit jamais remplacer l'interrogatoire. Elle doit seulement t'aider à construire tes premières hypothèses.
Excusez-moi, je peux commencer à vous expliquer pourquoi je suis venue ?
Bien sûr, madame. Nous vous écoutons.
Ça fait plusieurs mois que j'ai mal. Au début, je pensais que c'était simplement l'âge. Je me disais que ça finirait par passer. Mais maintenant, j'ai de plus en plus de mal à faire des gestes tout simples. Ouvrir un pot, boutonner une chemise, porter mes courses. Et je commence à m'inquiéter.
Quand elle dit « j'ai mal », j'ai tout de suite envie de lui demander où.
Pourquoi ?
Parce que c'est ce qui me paraît le plus logique.
Et si je te disais que ce n'est peut-être pas la meilleure première question ?
Alors, je ne sais plus.
Parfait, c'est exactement l'état d'esprit que j'attendais. Quand on ne sait plus, on recommence à réfléchir.
Pause réflexive.
Et vous ? Si vous étiez à la place de Lucas, quelle serait votre première question ? Ne cherchez pas la bonne réponse, cherchez votre réponse, mettez le podcast sur pause. Lucas, ouais ! Quelle question choisirais-tu maintenant ?
Acte 2. Une douleur raconte toujours une histoire.
Lucas, tu étais sur le point de poser une première question. Laquelle choisis-tu ?
Je crois que je lui demanderai où elle a mal.
Pourquoi ?
Parce que si je ne connais pas la localisation, je vais avoir du mal à avancer.
Tu as raison. La localisation est indispensable. Mais je vais te demander quelque chose. Imagine deux patients. Tous les deux montrent exactement la même articulation, exactement le même endroit, exactement la même douleur. Penses-tu forcément qu'ils souffrent de la même maladie ?
Instinctivement, j'aurais tendance à dire oui.
Et pourtant, tu verras très vite que ce n'est pas le cas. Une douleur n'est jamais seulement un endroit. Une douleur est une histoire. Et cette histoire, tu vas la reconstruire, question après question. Tu dois te poser trois questions fondamentales. Où, quand, comment ? Ce triptyque structure tout l'interrogatoire en rhumatologie.
Donc, je commence quand même par lui demander où elle a mal.
Oui, mais pas uniquement. Regarde.
Madame, pouvez-vous me montrer exactement où vous avez mal ?
Surtout ici, non. Elle montre les mains, mais parfois aussi les poignets. Et certains matins, j'ai l'impression que tout est douloureux.
Je ne m'attendais pas à cette réponse. Je pensais qu'elle allait me montrer un seul endroit.
Les patients répondent rarement, comme les livres. Tu remarques quelque chose ?
Oui, elle montre avec son index. Vous aviez insisté tout à l'heure sur le fait qu'il fallait demander aux patients de montrer précisément la douleur.
Exactement. Pourquoi, à ton avis ?
Pour être sûr qu'on parle du même endroit.
Oui, et aussi parce que les mots sont parfois imprécis. Quand un patient dit « j'ai mal au bras. Cela peut correspondre à l'épaule, au coude, à un tendon, à un muscle, ou même à une douleur qui irradie depuis une autre région. Demandez au patient de montrer précisément le point de départ de la douleur, puis de rechercher d'éventuelles irradiations, est une étape fondamentale de l'interrogatoire.
Je crois que je posais souvent cette question, sans vraiment savoir pourquoi. Tu viens de découvrir quelque chose d'important. En médecine, on ne pose jamais une question parce qu'on nous a appris à la poser. On la pose parce qu'on sait ce qu'on espère apprendre grâce à elle.
Pause réflexive.
À votre tour, imaginez qu'un patient vous dise simplement « j'ai mal au bras ». Quelles sont les différentes réalités qui peuvent se cacher derrière cette phrase ? Prenez quelques secondes. Ne cherchez pas un diagnostic. Cherchez quelles informations vous manquent encore.
Professeur, je peux vous poser une question ?
Toujours un.
Pourquoi les rhumatologues passent-ils autant de temps à discuter avec leurs patients ? J'ai fait un stage aux urgences. Parfois, tout allait très vite. Ici, j'ai l'impression que chaque réponse entraîne une nouvelle question.
C'est probablement la meilleure question de la journée. Dis-moi, à ton avis, pourquoi ?
Parce que les radios ne suffisent pas.
Pas toujours, encore.
Parce que le diagnostic dépend énormément du contexte.
Tu t'en rapproches. En rhumatologie, le patient te donne souvent lui-même les premières clés du raisonnement, à condition de savoir les écouter.
Vous savez, ce qui me gêne le plus, ce n'est même pas la douleur.
Ah bon ?
Non, la douleur, on finit presque par s'y habituer. Ce qui est difficile, c'est de ne plus réussir à ouvrir un simple bocal ou de demander à son mari de boutonner une robe. On a l'impression de perdre un peu son autonomie.
Je n'aurais pas pensé à lui demander ça.
Et pourtant, tu viens d'entendre quelque chose de fondamental.
Le retentissement.
Exactement. Une douleur ne se résume jamais à son intensité. Deux patients peuvent coter leur douleur à 5 sur 10 hein, et pourtant avoir une vie complètement différente. Il faut rechercher la raideur, l'impotence fonctionnelle, les difficultés dans les activités quotidiennes, le retentissement professionnel ou encore une éventuelle fatigue.
Je crois que j'aurais eu tendance à noter douleur 5 sur 10 et à passer à la suite.
C'est une erreur fréquente. On mesure facilement la douleur. On oublie parfois de mesurer ce qu'elle vole au patient. Et c'est souvent là que se cache la véritable souffrance. Gardez cette phrase en mémoire. On ne soigne pas une articulation. On soigne une personne qui ne peut plus vivre comme avant. Lucas, jusqu'à présent, tu as demandé où ? Tu as commencé à comprendre pourquoi ? Mais il manque encore une question. Probablement la plus importante de toutes. Une question qui, à elle seule, peut faire basculer ton raisonnement vers un mécanisme mécanique ou inflammatoire. Et cette question, nous allons la poser maintenant.
Acte 3.
Lucas, tu m'as dit tout à l'heure quelque chose d'intéressant.
Quoi donc ?
Tu voulais connaître la localisation, puis le retentissement ? Très bien. Mais il manque encore une question, une seule. Et cette question va parfois orienter toute la consultation.
Je crois savoir laquelle.
Ne me réponds pas tout de suite, réfléchis. Imagine que tu fermes les yeux. Tu ne vois plus ton patient, tu ne peux lui poser qu'une seule question. Une seule, laquelle choisirais-tu ?
À quel moment avez-vous mal ?
Voilà, pourquoi cette question est-elle si importante ?
Parce que le moment où apparaît la douleur peut orienter vers une douleur mécanique ou inflammatoire.
Tu n'as pas répondu complètement. Je vais reformuler. Pourquoi le moment de la douleur est-il aussi important que son intensité ?
Parce que deux patients peuvent avoir très mal, mais pour des raisons complètement différentes.
Exactement. L'intensité décrit la souffrance. L'horaire commence à nous renseigner sur le mécanisme. L'interrogatoire doit préciser quand apparaît la douleur, son mode d'apparition, sa durée d'évolution et ses caractéristiques mécaniques ou inflammatoires. Madame Martin, pouvez-vous nous raconter une journée typique avec cette douleur ? Pas seulement quand elle est forte. Racontez-nous votre journée.
Eh bien, le matin, c'est le plus compliqué. Je me réveille, j'ai les doigts tout raides, j'ai du mal à fermer les mains. Je reste quelques minutes assise sur le bord du lit, puis petit à petit, ça se débloque. Après, dans la journée, ça va plutôt mieux. Enfin, jusqu'au soir, quand je rentre du travail, je recommence à avoir mal.
Professeur, je suis un peu perdue. Elle me dit que c'est pire le matin, puis mieux, puis de nouveau pire le soir. Je ne sais plus quoi penser. J'ai dit quelque chose de faux ?
Non, tu viens simplement de découvrir la vraie médecine. Les patients ne récitent jamais les livres. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce qu'elle vient de raconter ?
Le fait qu'elle parle de raideur.
Continue.
Et qu'elle dise que ça s'améliore. Lorsqu'elle commence à bouger. Très bien, tu n'es déjà plus en train d'écouter seulement une douleur. Tu commences à analyser un mécanisme. pause réflexive.
À vous. Arrêtez quelques instants le podcast. Reprenez toute l'histoire de Madame Martin. Sans chercher un diagnostic, essayez simplement de répondre à cette question. Quels éléments orientent vers un mécanisme inflammatoire? Et surtout, quels éléments vous empêchent encore d'en être certain? Nous vous retrouvons dans quelques secondes.
Professeur, j'ai l'impression que je cherche encore trop vite une maladie.
C'est normal, nous avons tous commencé comme ça. Tu veux savoir ce qui différencie souvent un étudiant d'un clinicien expérimenté?
Oui.
L'étudiant écoute pour trouver un diagnostic. Le clinicien écoute pour comprendre l'histoire du patient. Le diagnostic arrive ensuite.
Je crois que je commence à comprendre ce que vous vouliez dire tout à l'heure.
À propos de quoi?
Quand vous avez dit qu'une douleur raconte toujours une histoire.
Exactement. Et tu sais quoi? Nous n'avons toujours pas examiné Madame Martin, nous ne l'avons pas palpée, nous n'avons demandé aucune prise de sang, aucune radiographie, et pourtant, notre raisonnement est déjà en train de se construire.
J'aurais cru que le plus important était l'examen clinique.
L'examen clinique est essentiel, mais il ne prend tout son sens que s'il répond aux questions soulevées par un interrogatoire bien conduit. Chaque geste de l'examen devra confirmer, infirmer ou préciser les hypothèses que tu viens de construire. C'est précisément l'articulation entre interrogatoire et examen clinique qui structure la démarche sémiologique décrite dans le cours. Lucas, nous avons maintenant une histoire. Il est temps de passer à l'étape suivante. Approchons-nous de la patiente. Avant même de poser les mains sur une articulation, je vais te demander d'utiliser ton meilleur outil diagnostique, tes yeux.
Acte 4. Observer avant de toucher.
Très bien, Lucas. Faisons une pause. Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que de l'histoire du patient. Et maintenant, je vais te donner une nouvelle information. Tu me diras ce qu'elle change dans ton raisonnement. Ça te va?
Allons-y.
Le patient se lève. Il marche jusqu'à toi, sans même l'examiner. Qu'observes-tu?
Je regarde sa marche.
Pourquoi?
Parce que une boiterie peut déjà m'orienter.
Continue.
Je regarde aussi sa posture, sa façon de se lever, s'il protège spontanément un membre.
Très bien. Tu viens de réaliser quelque chose d'important. Tu n'as toujours pas posé les mains sur ton patient. Et pourtant, ton examen clinique a déjà commencé. L'examen physique débute par l'inspection. Elle comprend notamment l'observation du patient debout, de sa posture, de ses téguments, d'éventuelles déformations et de la marche.
Pause réflexive.
À votre tour. Imaginez un patient devant vous pendant 10 secondes. Vous n'avez pas le droit de lui parler. Vous n'avez pas le droit de le toucher. Que regardez-vous? Lucas, je vais maintenant ajouter une nouvelle information. Le patient présente un gonflement du genou droit. Qu'est-ce que cela évoque pour toi?
Une arthrite?
Peut-être, mais attention là, tu viens déjà d'interpréter. Avant d'interpréter, décris, toujours.
D'accord, je décrirai d'abord une augmentation de volume. Puis, je rechercherai s'il existe une rougeur, un œdème, une déformation.
Pourquoi cette différence est-elle importante?
Parce que, si je décris, n'importe quel autre médecin pourra comprendre ce que j'ai vu. Alors que si je commence directement par conclure, je risque de me tromper.
U vient de dire quelque chose que beaucoup de médecins mettent plusieurs années à apprendre. D'écrire avant d'interpréter. Et toujours.
Je crois que je comprends enfin pourquoi vous me demandez toujours « qu'est-ce que tu vois ?» et jamais « quel est ton diagnostic ?»
Exactement, parce que si ton observation est fausse, ton raisonnement le sera aussi. Continuons. Tu poursuis ton inspection. Tu remarques maintenant que le genou est légèrement en flexion. Que t'évoque cette position?
Je ne sais pas.
Très bien. Pourquoi un patient garde-t-il parfois spontanément son articulation en flexion?
Pour éviter la douleur.
Exactement. Ce patient présente en fait un flessum, ce qui correspond à une articulation maintenue spontanément en flexion, le plus souvent pour des raisons antalgiques. Il fait partie des déformations recherchées lors de l'inspection.
Pause réflexive.
Nouvelle pause. Vous observez un patient, vous remarquez une boiterie, un genou légèrement fléchi, une tuméfaction. Sans chercher un diagnostic, quels éléments souhaitez-vous vérifier ensuite? Prenez quelques secondes.
Je pense que je vais maintenant passer à la palpation.
Pourquoi?
Parce que j'ai besoin de confirmer ce que j'ai observé. Je veux savoir si le genou est chaud, s'il est douloureux et si ce gonflement correspond réellement à un épanchement.
Parfait. Tu remarques ce qui vient de se passer ?
Oui, cette fois, je ne palpe plus au hasard. Je sais exactement ce que je cherche. Lucas, nous allons maintenant poser les mains sur l'articulation.
Lucas, nous allons changer un peu les règles.
Comment ça ?
Jusqu'à présent, c'est moi qui te donnais les informations. À partir de maintenant, tu vas raisonner seul. Je n'interviendrai presque plus.
Ça met un peu la pression.
C'est normal, parce que c'est exactement ce qui se passera demain en stage. Je reprends le cas depuis le début. Tu écoutes, puis tu construis ton raisonnement. Femme de 56 ans, douleur des mains et des poignets, évoluant depuis 4 mois. Installation progressive, raideur matinale de moins de 15 minutes. Difficulté à l'effort et dans les gestes du quotidien. À l'inspection, tu observes une discrète tuméfaction des poignets. Pas d'autres informations.
PR, Claire Delmas.
Quelles sont les informations qui te paraissent importantes ?
D'accord. Je retiens que la douleur est de plus de 3 mois, donc aiguë, qu'elle concerne plusieurs articulations, que les poignets et les mains sont atteints, qu'il existe une raideur matinale qui évoque une douleur inflammatoire, que les mouvements améliorent les symptômes et qu'il existe déjà un retentissement fonctionnel. Pause réflexive. PR Claire Delmas. À votre tour. Ne cherchez toujours pas un diagnostic. Prenez une feuille, écrivez simplement « Qu'est-ce que je sais ?»« Quelles sont les éventuelles erreurs de Lucas ?» Puis, juste en dessous, « Qu'est-ce que je ne sais pas encore ?»
Lucas, j'aimerais revenir au tout début de notre discussion. Tu te souviens de ta première réaction ?
Oui, je voulais tout de suite demander où le patient avait mal.
Et maintenant ?
Je commencerai différemment. J'observerai d'abord, puis je construirai progressivement mon interrogatoire. Je ne chercherai plus immédiatement une maladie. J'essaierai d'abord de comprendre le mécanisme de la douleur.
Si tu devais résumer cette première journée en 5 idées, lesquelles choisirais-tu ?
Premièrement, le raisonnement clinique commence avant le premier geste. Deuxièmement, observer et déjà examiner. Troisièmement, chaque question de l'interrogatoire doit avoir un objectif précis. Quatrièmement, d'écrire avant d'interpréter. Et enfin, avant de chercher une réponse, il faut savoir identifier les informations qui nous manquent.
Je n'aurais presque rien à ajouter. Ces 5 idées constituent les fondations de toute la sémiologie rhumatologique. Si elles deviennent des automatismes, alors chaque épisode qui suivra viendra naturellement enrichir ton raisonnement. Et vous, je vous laisse avec une dernière question. Lorsque vous verrez votre prochain patient, quelle sera la toute première chose que vous ferez ?
Jingle de fin.